Bonsoir. Et maintenant, que vont-ils faire? Après bientôt 5 mois de manifestations et bientôt 3 mois de débats, les jours qui viennent seront décisifs pour la suite, avec demain la présentation d'une première synthèse des débats par le Premier ministre, avec ensuite les premières réponses décidées par le chef de l'État. Christophe Castaner, les ONG et les passeurs, les propos du ministre de l'Intérieur accusant les premières d'avoir pu se faire complices des seconds, continuent à faire polémique. Le Rassemblement National applaudit. Le premier secrétaire du PS, Olivier Fort, sur France Inter, exprime sa honte. Faire de ce 7 avril une journée de commémoration du génocide des Tutsis, les associations de victimes saluent ce soir la proposition d'Emmanuel Macron, tout en jugeant très insuffisantes les initiatives françaises. À Kigali, le président Kagame appelle les Rwandais à l'unité nationale en promettant qu'une telle tragédie ne se reproduirait jamais. Dans ce journal également, l'escalade militaire qui se confirme en Libye, où l'ONU demande déjà une trêve humanitaire. Le Premier ministre israélien qui promet, à 2 jours des législatives, d'annexer les colonies israéliennes de Cisjordanie occupées. En sport, le PSG peut être champion de France dès ce soir. Après le match nul un partout de Lille à Reims, les Parisiens sont à 3 points du sacre. Reste à gagner contre Strasbourg, tout à l'heure au Parc. Victoire cet après-midi de Toulouse, 1-0 contre Nantes, et de Nice, 1-0 face à Montpellier. Dans le top 14, match nul entre le Racing et Clermont à Clermont, 31 partout. Un pas de plus vers la phase finale pour les Lyonnais du Loup, vainqueur à Pau, 27-24. Et puis en cyclisme, la victoire d'un Italien dans le Tour des Flandres, l'un des monuments de la saison. Première grande victoire du jeune Alberto Bettiol. Le journal des sports dans un instant, c'est avec Jérôme Val. Enfin, des averses au nord et à l'est demain. Des nuages sur la façade atlantique avec aussi un peu de pluie. 13 à 14 degrés près de la Manche pour les températures les plus basses, 19 degrés pour les plus hautes dans le Gard.
France Inter.
Rien ne sera plus comme avant. Après le grand débat, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, en est sûre et l'a dit aux Parisiens dimanche. Les gens ont exprimé le besoin d'être associés aux décisions et un sentiment, ils ont exprimé aussi un sentiment d'injustice, notamment en matière fiscale. Eh bien, il faudra y répondre. Reste à savoir comment. Les jours qui viennent seront probablement décisifs pour la suite des événements, avec dès demain la restitution, comme on dit, des contributions apportées au débat par quelque 1,5 million de Français. Ce matin, dans Ouest France, les deux ministres pilotes de ce grand débat national ont levé un coin de voile en révélant que les sujets liés à l'écologie avaient été plébiscités, alors que le retour de l'ISF et la restauration d'un RIC, référendum d'initiative citoyenne, en revanche, n'avaient pas fait l'unanimité. Tout ce qu'on sait de ce qui sera décidé, c'est qu'on ne sait rien, Maxence Lambrecq, mais des pistes se dessinent et surtout des lignes rouges ont été tracées.
Ni reniement, ni entêtement, disait Emmanuel Macron à Saint-Brieuc il y a 4 jours. Autrement dit, pas question de détricoter les premières réformes de ce quinquennat. Et en même temps, nous sommes ouverts à de nouveaux projets. C'est ce que laissent entendre les deux ministres dans cette interview. On est rentré dans le débat avec ces deux totems, ISF et référendum d'initiative citoyenne. Mais ils se sont progressivement dilués avec d'autres préoccupations, explique Emmanuel Wargon. Préoccupations écologiques, de plus en plus fortes au fil des semaines. Question d'intégration, de harcèlement, souvent évoqué aussi. L'éducation, la santé, l'emploi, Emmanuel Macron n'en avait pas parlé dans sa lettre d'ouverture et finalement, il ne pourra pas y échapper à l'issue de la restitution. On le comprend, entre les lignes, il n'y aura pas de grand soir avec un catalogue de mesures pour satisfaire telle ou telle catégorie de Français, mais plusieurs grands chantiers lancés. Le président a évoqué le temps d'une décentralisation. On a besoin de moins de fonctionnaires, de circulaires, et de plus de fonctionnaires de guichet, concluait-il en Bretagne. Le président devrait dévoiler ses options mi-avril. Et d'ici là, le Premier ministre Édouard Philippe va préparer le terrain avec des discours demain au Grand Palais, mardi à l'Assemblée et mercredi au Sénat.
Tout est sur la table à l'issue de ce grand débat, y compris la réforme fiscale à grande échelle que beaucoup réclament. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, y est prêt. Il l'a dit au JDD. La remise à plat de notre fiscalité, qui d'ailleurs a déjà commencé, dit-il, ça veut dire avant tout baisser les impôts. Les pistes sont nombreuses. La suppression des niches fiscales, injustes et inutiles. La suppression de la redevance. La baisse des droits de succession. Ce qui doit s'accompagner, ajoute Gérald Darmanin, d'une baisse des dépenses publiques, qui elle aussi a déjà été engagé. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de recette miracle pour Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, sauf à renouer, dit-il, avec la croissance. Il est au téléphone de Matteo Maestracci.
Il n'y a pas de recette miracle. C'est-à-dire qu'il y a une recette miracle, mais qui est compliquée aujourd'hui à avoir, c'est la croissance. Sauf que dans un scénario dans lequel on a peu de croissance, les marges de manœuvre sont assez réduites. Donc c'est vrai que si vous baissez les prélèvements et vous voulez réduire en même temps les déficits, il faut trouver des économies à faire. Et c'est vrai que les économies, elles sont rarement indolores. Et donc on voit que souvent on se retrouve, en tout cas le gouvernement par exemple, typiquement pour boucler le budget, à désindexer les retraites. C'est vrai que ça fait des économies importantes, mais on voit que de l'autre côté, les retraités ont perdu en pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment des économies structurelles qui permettraient de diminuer fortement la dépense publique. Malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Il faut savoir que la France est particulière là-dessus, c'est qu'on a un modèle de protection sociale qui est développé, notamment la retraite et la santé, qui sont essentiellement publics, finalement représentent quasiment la moitié de la dépense publique. Donc ça veut dire remettre en question, en gros, notre modèle social si vraiment on veut réduire drastiquement la dépense publique.
Un sujet parfois revenu également dans les débats, la taxation des GAFA, qui a finalement été décidée par le gouvernement, mais sera-t-elle vraiment efficace pour l'organisation intermondialiste ATTAC qui a étudié la question? La réponse est non. D'après ses calculs, près des deux tiers du chiffre d'affaires de Google, Apple, Facebook et Amazon, auxquels on peut d'ailleurs ajouter Microsoft, échapperont à cette taxe qui ne concernera que leur activité numérique, notamment la publicité en ligne, sans compter que ces GAFAM dissimulent en moyenne plus de 70% de leur activité sur le territoire. Bref, pour ATTAC, le projet du gouvernement qui doit rapporter 400 millions d'euros cette année est loin de résoudre l'anomalie qu'il prétend combattre. En politique également, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, au centre d'une nouvelle polémique, rien à voir avec les Gilets jaunes. C'est son propos sur les ONG qui ont pu se faire complice des passeurs en Méditerranée. C'est ce propos-là qui continue de faire des vagues alors que l'extrême droite se réjouit de ces propos. La gauche crie au scandale. Pour Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement National aux Européennes, son parti, qui tenait déjà ce discours au mois de juin, avait eu raison plus tôt. Pour Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, c'est au contraire une honte. Il était à midi l'invité de Questions politiques sur France Inter.
Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le président de la République refuse l'Aquarius. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, nous explique que les ONG sont complices des passeurs. La honte. La honte, pourquoi? Parce que le grand défi, il n'est pas là. Le défi, c'est que de faire en sorte qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique. S'il y a un réchauffement climatique, c'est pas 300 avec l'Aquarius qui vont arriver. C'est des centaines de millions. C'est 1 milliard de femmes et d'hommes qui vont fuir leur pays. Qui vont le fuir non pas parce qu'ils ont envie de venir chercher nos allocations, mais simplement parce que chez eux, on ne pourra plus boire, on ne pourra plus manger. Parce qu'il y aura des guerres climatiques. Je ne suis pas en train de faire Cassandre. Je suis en train de dire ce que tout le monde sait.
Non, encore, et en tout cas, vous faites une corrélation assez étrange. C'est-à-dire, en gros, il faut lutter contre le réchauffement climatique parce que sinon, il y a 1 milliard d'Africains qui vont débarquer en Europe.
Mais la question migratoire est étroitement liée, effectivement, à la question climatique. Tout le monde le sait, et depuis longtemps. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, si on ne veut pas que ces gens-là s'exilent, eh bien, il faut les aider à rester là où ils sont. Et donc, il faut se battre pour le climat. Et on a 10 ans pour ça. Et c'est maintenant qu'il faut le faire.
Olivier Faure avec Ali Badou. De la même façon, la tête de liste Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, se dit profondément choqué par les propos de Christophe Castaner, tout comme Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise, selon laquelle le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, n'aurait pas mieux dit que le ministre français.
Le journal de 19h. Sur France Inter.
À l'étranger, une famille plus unie que jamais. Au Rwanda, le président Paul Kagame a profité de la commémoration du génocide pour adresser à son peuple un message d'espoir, faire de cette tragédie d'il y a 25 ans une force pour l'avenir. C'est le 7 avril 1994 qu'avait été donné le signal de départ des massacres qui devaient faire en 3 mois 800 000 morts parmi les Tutsis jusqu'à l'entrée à Kigali début juillet du Front patriotique rwandais, commandé par un jeune militaire nommé Kagame. Au pouvoir depuis lors, Paul Kagame aura été ce dimanche au centre de toutes les attentions. À Kigali, Jean-Pierre Monza, le correspondant de Radio France Internationale pour France Inter.
Pas un orateur n'a manqué de rendre un hommage très appuyé au président du Rwanda. Pas un mot sur les critiques dont son régime est l'objet de la part des défenseurs des droits de l'homme. Ça n'était sans doute pas le jour. Paul Kagame a eu droit aux éloges les plus marqués de la part de ses invités. Le président de la commission de l'Union africaine, premier d'entre eux à parler, Moussa Faki Mahamat, a salué la vision du dirigeant rwandais. Leadership, rigueur et courage remarquable, dit-il. Il dit aussi son admiration face au chemin parcouru couru depuis 1994. C'est aussi ce que dit Jean-Claude Juncker pour le président de la Commission européenne. Le Rwanda est un exemple vivant de renaissance et de remontée vers la lumière. Et puis il y a bien sûr le Premier ministre belge. Au nom de l'ancienne puissance coloniale, Charles Michel dit son admiration pour la résilience du Rwanda. Mais surtout, il reformule les excuses présentées par son prédécesseur en 2000. Guy Verhofstadt avait alors reconnu le cortège de négligence, d'incompétence et de faute qui avait rendu le génocide possible. Kigali, Jean-Pierre Monza, RFI pour France Inter.
Les présidents du Tchad, du Congo, du Niger notamment étaient là, mais personne pour représenter les États voisins du Rwanda. Preuve des tensions qui continuent à régner dans la sous-région. D'où ce message en forme de mise en garde qu'a également lancé le président Kagame.
The suffering we have endured should be enough.
Notre esprit de combativité est intact malgré la souffrance que nous avons endurée. Et laissez-moi ici dire quelque chose à tous ceux qui pensent que notre pays n'a pas assez souffert et veulent en découdre avec nous, qu'ils soient d'ici ou de l'étranger, nous les combattrons. L'esprit de combativité est intact en nous. Ce qui s'est passé ici ne se reproduira jamais. Aucun adversaire ne doit sous-estimer la formidable force que nous sommes devenus.
Rwandans have become as a result of our circumstances.
Voilà, le seul chef de gouvernement non africain présent à cette cérémonie, on l'a dit, c'était le Premier ministre belge Charles Michel, au nom de l'ancienne puissance coloniale qui a dit vouloir assumer la part de responsabilité de son pays face à l'histoire. La France, dont le rôle reste également controversé, c'est un euphémisme, était représentée par le député d'origine Tutsi Hervé Berville. Ce matin, le président de la République a dit vouloir faire de ce 7 avril une journée officielle de commémoration du génocide des Tutsis. Une nouvelle avancée, selon les associations de soutien aux victimes, une avancée qui s'ajoute à l'ouverture limitée des archives, mais une avancée, selon elle, qui reste insuffisante. L'appel à la trêve en Libye, après plusieurs jours de combats au sud de Tripoli, la mission des Nations Unies en Libye appelle ce soir à un cessez-le-feu humanitaire, une trêve de 2 heures qui permettrait d'évacuer les blessés. Dès jeudi, la communauté internationale s'était émue de l'offensive lancée sur la capitale libyenne par l'autoproclamé maréchal Haftar, qui tient l'est du pays, l'appelant à suspendre les hostilités alors qu'une conférence sur la Libye organisé par l'ONU est prévu mi-avril, mais rien n'y a fait. L'armée du maréchal rebelle dit avoir mené ce matin un premier raid aérien en banlieue de Tripoli, où les forces du gouvernement d'Union nationale de Fayez al-Sarraj assurent avoir lancé une contre-offensive. Maureen Mercier nous appelle du pays voisin, la Tunisie.
On ne sait pas où donner de la tête, on ne sait qui croire. Parole d'un habitant du sud de la capitale. Oui, il confirme de lourds bruits d'explosions et la présence de victimes. Quant à savoir quel camp prend l'avantage, celui de l'homme fort de l'est du pays, le général Haftar, ou celui de Sarraj, le chef du gouvernement de Tripoli soutenu par la communauté internationale, impossible de le savoir. Les Libyens sont sûrs d'une seule chose, c'est qu'ils ne peuvent faire confiance à personne. La guerre d'information a envahi les réseaux sociaux et les télévisions depuis déjà bien longtemps. Le général Haftar prétend mener une guerre contre le terrorisme sur la partie ouest du pays. Alors qu'à l'ouest, on affirme que le général veut s'imposer pour instaurer une dictature militaire. Depuis toujours, le général assure être à la tête d'une armée digne de ce nom, organisée et puissante. Dans les faits, tout comme celle du gouvernement Sarraj, son armée ressemble bien plus à une addition de brigades. En plus de la propagande qui règne, la confusion sur le déroulement des combats s'explique aussi par ce morcellement des troupes. Une chose est sûre, on peut affirmer que l'escalade a bel et bien démarré. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Ce soir, le gouvernement de Tripoli fait état de 21 morts. L'armée d'Haftar dit avoir eu 14 tués dans ses rangs. En Israël, c'est ce qui s'appelle faire feu de tout bois. Dans la dernière ligne droite de la campagne pour les législatives, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui tient meeting tout à l'heure à Jérusalem, n'a pas hésité. Il promet d'annexer, en cas de réélection, les colonies israéliennes de Cisjordanie occupées. Promesse aussitôt jugée irresponsable par son adversaire centriste, le général Benny Gantz, dont la liste est au coude à coude dans les sondages avec le Likoud de Netanyahou, ceci expliquant cela. Étienne Monin à Jérusalem.
Cette prise de position représente un tournant dans la politique d'occupation israélienne. La Cisjordanie est sous contrôle militaire depuis 1967. Les colons sont autour de 450 000. Ils dépendent pour partie de la loi civile israélienne, mais la souveraineté dans ces enclaves n'a pas été prononcée. Seule Jérusalem est annexée. C'est pourtant un thème récurrent. En 3 ans, 60 textes de loi ont été proposés. Cette annexion serait une nouvelle mesure unilatérale. Elle marquerait la fin d'une solution négociée à avec les Palestiniens. Benjamin Netanyahou fait cette annonce 3 jours avant le vote. En 2015, il avait déjà polarisé la campagne contre les Palestiniens dans la dernière ligne droite. Il cherche aujourd'hui à faire le plein des voix au sein du Likoud pour arriver en tête devant son adversaire du centre. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Benjamin Netanyahou, qui a déjà passé 13 ans au pouvoir et repartirait en cas de victoire pour un 5e mandat. Au Soudan, des manifestations qui prennent de l'ampleur contre le président Omar el-Béchir, déclenchées le 19 décembre. Après un triplement du prix du pain, elles se sont transformées en mouvement de contestation. Des milliers de manifestants ont appelé ce dimanche l'armée soudanaise à les rejoindre pour obtenir le départ du président Béchir, qui est en poste depuis plus de 30 ans dans ce pays qui a perdu les 3/4 de ses réserves de pétrole depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. L'inflation atteint aujourd'hui les 70%. 19h17, on passe au sport. Avec vous Jérôme Val, bonsoir.
Bonsoir Yves.
Ils y sont presque, les joueurs du PSG. Une victoire tout à l'heure contre Strasbourg et ils seront champions de France de Ligue 1.
Alors depuis plusieurs semaines déjà Yves, la question n'était pas de savoir si le Paris Saint-Germain allait être champion, mais quand ? Eh bien ça peut être dès ce soir, en effet bien aidé par le match nul de Lille à Reims cet après-midi, on y reviendra dans un instant, mais avec 19 points d'avance au classement et à 8 matchs de la fin, le PSG ne pourra plus être rejoint s'il l'emporte ce soir au Parc des Princes où vous vous trouvez, Cédric Guillou. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Jérôme.
Alors il y a quand même un paradoxe ce soir, un titre, normalement ça devrait être une fête, mais il y a eu tellement peu de suspense que ce possible titre ce soir est un peu fade.
Oui, c'est ça. Et puis il y a eu aussi un autre événement, hein, Jérôme, dans la saison du Paris Saint-Germain, c'est cette élimination concédée en Ligue des Champions contre Manchester United. C'est une élimination qui a plombé la saison du PSG. Alors c'est sûr qu'il va y avoir quelques sourires ce soir, évidemment, si les Parisiens arrivent à battre Strasbourg et à décrocher le 8e titre de champion de France de leur histoire. Mais il n'y aura pas une folle ambiance, il n'y aura pas une grande fête du côté du Paris Saint-Germain. Mercredi soir, par exemple, eh bien les Parisiens, vous le savez, se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France en battant Nantes 3-0. Et bien à la fin du match, il y a eu le speaker qui a remercié les joueurs. Ça a duré 5 secondes et il n'y a pas eu de tour d'honneur, par exemple, des joueurs parisiens qui sont très vite rentrés au vestiaire. Alors pour ce soir, pas sûr du tout que ce soit la folle ambiance si le Paris Saint-Germain est sacré champion de France, parce qu'aujourd'hui au PSG, bien être champion c'est juste normal, eu égard au budget du club par rapport aux autres formations du championnat de France de Ligue 1.
Alors imaginons hein, Cédric, un 6e titre ce soir en 7 ans pour le PSG, la fin de saison c'est quoi ? Il faut aller chercher des records ?
Oui, c'est ça. Hein. Alors déjà, Paris égalerait ce soir son record de précocité qui date de la saison 2015-2016. Paris qui avait été aussi sacré champion de France après avoir disputé 30 matchs de championnat. Ça pourrait donc être également le cas ce soir. Et pour bien finir la saison, alors c'est vrai qu'il y aura des objectifs statistiques du côté du PSG. C'est-à-dire d'atteindre par exemple les 100 points en championnat lors de la saison record avec Laurent Blanc. Le PSG avait fini avec 96 points et 2 défaites. Pour l'instant, les Parisiens ne se sont inclinés qu'une seule fois. C'était contre Lyon le 3 février. Puis l'objectif aussi, par exemple, peut-être de marquer plus de 108 buts. Ça, c'était le total de buts de la saison dernière pour les Parisiens. Ça, ce sont les enjeux pour la fin du championnat. Puis aussi, Jérôme, ne l'oublions pas, la finale de la Coupe de France contre Rennes au Stade de France le 27 avril.
À la fin du mois. Merci Cédric. Coup d'envoi de la rencontre à 21h au Parc. Et puis, je vous le disais, Lille devait l'emporter cet après-midi à Reims pour retarder un peu l'échéance du titre parisien. Eh bien, mission ratée pour le LOSC.
Et oui, les nordistes qui n'ont pas pu faire mieux que match nul 1 partout après avoir pourtant ouvert le score.
Un résultat qui leur permet quand même de conforter leur deuxième place au classement. Ils comptent désormais 5 points d'avance sur Lyon avant d'affronter, et ça c'est le petit clin d'œil, le PSG dans une semaine, l'entraîneur lillois Christophe Galtier au micro d'Antoine Martin.
Le regret, il est simplement comptable par rapport aux autres concurrents, que ce soit Lyon, Saint-Etienne et Marseille. Par rapport à Paris, ouais. S'ils gagnent, ils seront champions, ils auront mérité leur titre. On les accueillera et on les félicitera s'ils sont champions avant le match. Puis après, on jouera notre match face à Paris, face à une équipe très difficile, quoi. Je vais être très franc avec vous, je regarde où se situe le 4e. On a un rendez-vous dimanche face à notre meilleure équipe du championnat. Il faudra voir comment on se situera après notre déplacement à Toulouse. Là, on vient d'enchaîner 2 déplacements. On fait 4 points. C'est quand même, sur un plan comptable, intéressant.
Et puis, il y avait 2 autres résultats ce dimanche. Toulouse enfonce un peu plus Nantes 1-0. Même score pour Nice face à Montpellier.
En foot, également, c'est une centenaire qui se porte comme un charme.
La 3F, comme on l'appelle, la Fédération Française de Foot, fête ses 100 ans ce dimanche. Et pour cet anniversaire, par exemple, elle va lancer une chaîne numérique sur laquelle on pourra visionner les faits d'armes des équipes de France. Et on peut imaginer que le dernier titre mondial des Bleus l'été dernier en Russie figurera en bonne place. L'occasion également de rappeler que les premiers responsables de la FFF ont été très influents, dont le premier président, Jules Rimet, également créateur de la Coupe du Monde, Noël Le Graët, son successeur, l'actuel patron de la 3F.
Je crois que la France innovait à l'époque de façon très importante. D'abord pour ses propres championnats, avec une organisation qui était déjà performante, parce que la province était très concernée. Pas tout à fait comme aujourd'hui, c'est pas du tout les choses ont beaucoup évolué. Mais en tout cas, il y a à la fois une force sur le territoire, mais aussi déjà une vision européenne et mondiale. Ce qui est assez incroyable pour des gens qui venaient de prendre une fédération qui n'était pas la meilleure à l'époque au niveau européen. Les Français ont été très, très créatifs.
Noël Le Graët avec notre ami Jacques Vendroux.
Pas encore centenaire, Jacques Vendroux. La 21e journée de Top 14 de rugby s'achève sur un festival en Auvergne. Match nul 31 partout entre Clermont et le Racing.
Et les Franciliens auraient même pu s'imposer avec une pénalité ratée sur le gong. Mais après leur élimination en Coupe d'Europe il y a une semaine, eh bien c'est un résultat plutôt rassurant. Julien Houry, vous êtes au stade Michelin à Clermont.
Du suspense et du spectacle dans cette rencontre ponctuée de 7 essais très précisément, 4 du côté de l'ASM Clermont-Auvergne, 3 pour les joueurs du Racing. On semblait parti pour voir une rencontre à sens unique côté clermontois et puis ils ont un peu perdu le fil en début de deuxième mi-temps. Le Racing a eu également la volonté de ne jamais rien lâcher et ce Racing aurait même pu l'emporter dans les toutes dernières minutes puisque Maxime Machenot a bénéficié de la balle de match avec une pénalité à la sirène. Le ballon a flirté avec le poteau gauche avant finalement de passer à côté des perches. On en reste donc sur ce score de 31 partout. Deux équipes qui seront sans doute amenées à se retrouver d'ici peu de temps dans les phases finales. D'ailleurs, au niveau de l'intensité et du jeu aujourd'hui, ça ressemblait déjà un petit peu à ces matchs de phase finale qui s'annoncent.
Merci Julien. Et puis Lyon a fait un pas important vers la qualification pour les phases finales en s'imposant cet après-midi à Pau 27 à 24.
En cyclisme, c'est un quasi inconnu qui s'impose sur les routes pavées du Tour des Flandres, l'un des monuments du cyclisme mondial.
L'Italien Alberto Bettiol s'est imposé en solitaire cet après-midi à Audenarde dans cette 103e édition de la Ronde. Le coureur de 25 ans remporte son premier succès chez les professionnels. Fanny Lechevestrier a suivi la course pour France Inter.
Vainqueur surprise tout simplement parce qu'Alberto Bettiol n'avait jusqu'à maintenant jamais décroché la moindre petite victoire en 4 ans de carrière professionnelle. Et là, l'Italien de 25 ans inscrit donc son nom au palmarès de l'un des 5 monuments du cyclisme. Alors il ne vient tout de même pas de nulle part, on le sentait monter en puissance cette saison avec notamment une belle deuxième place dans le contre-la-montre de la Tirreno Adriatico. Bettiol, qui l'a emporté en solitaire, a aussi profité aujourd'hui de la mésentente des favoris lancés à sa poursuite au terme d'une course animée de bout en bout et marquée par de très nombreuses chutes, dont celle spectaculaire du vainqueur sortant, Nicky Terpstra, évacué à l'hôpital. Le coureur de Direct Energy souffre d'un traumatisme crânien. Le Néerlandais est d'ores et déjà forfait pour Paris-Roubaix dimanche prochain. Paris-Roubaix, où les Français, eux, tenteront enfin de montrer le bout de leur nez. À Audenhart, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Et puis à noter la 4e place du jeune Néerlandais Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor.
Qui faisait mieux, lui, il était 2e en général.
Et le premier Français dans ce Tour des Flandres, c'est Damien Godin, il est terminé à la 23e place.
Direction la Finlande maintenant, Jérôme, la Finlande où les hockeyeuses françaises disputent le premier championnat du monde élite de leur histoire.
Et l'apprentissage, Yves, du haut niveau est difficile pour les Bleus, elles affrontent les meilleures nations du monde. Pour l'instant, sans réussite, 3 matchs dans ce mondial, 3 défaites face au Japon, la République tchèque et cet après-midi contre la Suède, revers 2-1, ce qui fait qu'elles sont reléguées dans le groupe B mondial. Alors, il faut dire que les Françaises ont encore le statut d'amateur, quand les Américaines ou les Russes, par exemple, elles sont professionnelles. Le chemin est encore long pour que le hockey tricolore rivalise avec les meilleurs. Reportage en Finlande de Guillaume Batin.
Avec un peu plus de 2500 pratiquantes en France, le hockey féminin se développe face aux nations nord-américaines ou scandinaves, où le hockey est une religion. Mais le fossé est encore immense. Christine Duchamp est la directrice technique nationale de la Fédération française.
Nous, on essaye d'améliorer les moyens qu'on met pour leur développement. On essaye de changer de dimension du Pôle France en déménageant au Centre National, là, à la rentrée prochaine, en mettant un peu encore plus de moyens autour de ce groupe pour essayer de faire franchir le cap d'après.
Le cap d'après passe aussi par l'entrée des joueuses dans le monde professionnel. Même si elles sont de plus en plus nombreuses à jouer dans des clubs canadiens ou scandinaves, 50% des membres de l'équipe de France sont encore étudiantes. L'attaquante Laure Baudry évolue au club de Modo en Suède.
J'ai réussi à négocier un contrat avec quelques avantages, mais j'étais obligée de travailler à côté parce qu'en fait, on n'est pas rémunéré ou alors presque rien, quoi. Donc mon club m'a trouvé un travail. J'ai fait de l'isolation pendant 4 mois, j'ai travaillé dans une usine. C'était assez surréaliste. C'est notre société qui a créé ça. Je veux dire, la place de la femme dans le sport, c'est pas juste le hockey, c'est toutes les sportives qui ont vraiment du mal à vivre de ça. Je m'entraîne comme une athlète professionnelle, mais je fais du bénévolat.
Le changement passera aussi par la performance et les résultats. Il a fallu près de 11 ans à l'équipe masculine pour rester dans l'élite mondiale et aux joueurs pour gagner le statut de sportif professionnel. À Helsinki, Guillaume Batin, France Inter.
Allez, on termine en prenant le large. C'est l'avenir de la voile, expliquent les promoteurs des ultimes. Vous savez, ces trimarans géants capables de voler au-dessus de l'eau.
Et cette semaine, ils ont présenté leur nouveau programme pour les 4 prochaines années. C'est très chargé.
3 tours du monde, une dizaine de transatlantiques jusqu'en 2023 pour François Gabart, Thomas Coville et consorts. Au total, 4 bateaux engagés, 6 d'ici 2 ans. Alors c'est vrai que ça reste peu, mais ces voiliers coûtent très cher, en général plus de 10 millions d'euros. Emmanuel Bachelry est délégué général de la classe des ultimes. Il est optimiste pour l'avenir de cette catégorie de bateaux.
Quand je vois l'intérêt, l'enthousiasme et la motivation qu'ont certains skippers à s'intéresser de près aux programmes et aux plateformes et à naviguer sur les plateformes, je pense qu'au niveau des marins, on a un pool de 4, 5 ou 6 d'entre eux qui ne sont pas encore skippers d'ultimes mais qui ont très envie de grimper, j'allais dire dans le train, ou en tout cas sur le bateau. Ça, c'est la première chose. Après, il faut qu'il y ait des armateurs qui soient prêts à accompagner ces projets. Et c'est vrai que c'est des projets qui sont coûteux. Après, on revient sur la zone de risque et sur l'ambition. L'ambition, c'est que ce fameux tour du monde en solitaire en course, mais aussi le tour du monde en équipage, mais aussi les autres événements qu'on va proposer pendant 4 ans, dessinent partie de l'avenir de la course au large. Voilà, parce que ces bateaux, ils ont été pensés pour ça. Mais c'est un pari. C'est comme quand un industriel décide de lancer un nouveau produit. Il y va, mais il a des études, il a une ambition, il a une vision. 9 fois sur 10, ça marche. Une fois sur 10, ça peut ne pas marcher. On essaiera d'être dans les 9 fois sur 10.
Et le premier grand rendez-vous de l'année pour ces ultimes, ce sera cet automne, avec une nouvelle course, la Brest Atlantique. Une boucle entre Brest, Rio de Janeiro au Brésil, le Cap en Afrique du Sud et retour à Brest.